résultats encore, mais l'étude comparative va être faite. Voilà, donc ça va être quand même intéressant à vérifier. Mais sur les chapeaux de fer, au niveau végétation et tout ça, il n'y en a pas du tout parce que c'est trop acide. Mais sinon, le micro-organisme, on en a détecté, donc il y en a. Mais on n'a pas encore poussé l'analyse plus loin à savoir quel type et tout ça. Les échantillons sont encore scellés. Et donc, c'est plusieurs des étudiants de maîtrise ou du doctorat qui font chacun une petite partie de recherche. Donc ça pourrait être un ou une autre étudiante qui pourra mener ça un peu plus loin du côté de McKinsey.
Je prends la balle au bon avec le 14 février et la passion du 14 février. D'où vous vient cette passion pour faire tant de recherches sur la lune, Mars, la géologie spatiale? D'où ça vient pour vous dans votre parcours?
C'est bien parce que ça fait un lien avec la discussion que j'avais avec un de vos collègues au tout début. Puis je vous dirais que c'est une série de gauche-droite, des petites directions qu'on prend tranquillement, pas vite, puis éventuellement on arrive là. J'ai étudié au département de géomatique appliquée en 2007. Puis mon but, quand j'ai commencé mes études, c'était d'appliquer la télédétection pour la détection des changements climatiques, ce qui est la vision classique du département. Puis c'est ce qui me passionnait et me passionne encore. Mais au cours du baccalauréat, donc qui est régime coopératif, j'ai fait un stage à l'Agence spatiale canadienne. Premier stage pour travailler sur l'équipe de radar SAT. Donc, on était en observation de la Terre, mais quand même, il y avait le département d'exploration spatiale pas loin. Et après mon bac, j'ai su un peu par hasard qu'ils cherchaient une étudiante à la maîtrise pour faire des projets de télédétection lunaire. Et c'est là qu'un des collègues, Michael Germain, a fait le lien. Il a dit « Ah, tu devrais essayer ça, appliquer ça. » Appliquer toutes les connaissances terrestres mais pour la télédétection lunaire, parce que les principes de télédétection sont les mêmes. Alors, j'ai dit « Ok, on essaie ça. » Et là, quand j'ai commencé, là, c'était fini. Là, je savais que je m'en sortirais plus. Fait que là, à partir de ça, ben, j'ai fait ma maîtrise en télédétection, mais avec l'Agence spatiale canadienne. Et là, pour le doctorat, je suis allée avec les chercheurs spécialisés aux États-Unis, à l'Université d'Hawaï, là-dessus. Puis là, j'ai vraiment suivi les meilleurs groupes de recherche pour poursuivre ma passion. Ouais. Et je suis bien heureuse d'être revenue à Sherbrooke, parce que c'était mon objectif. Après avoir fait tout ça, je ne voulais pas vivre nécessairement aux États-Unis. Je voulais vraiment revenir ici. Et comme j'avais étudié à l'Université de Sherbrooke, idéalement, je voulais un poste ici, puis ça s'est concrétisé. Donc, c'est extraordinaire.
Je comprends que vous voulez aller dans le sud, parce que c'est là qu'il y aurait vraisemblablement de la glace. Est-ce que c'est plus difficile d'aller dans le sud que ailleurs?
Oui, puis en fait, parenthèse, on sait qu'il y a de la glace au pôle nord et au pôle sud, c'est à peu près équivalent. Mais le pôle sud a un énorme cratère d'impact aussi qui serait intéressant d'aller étudier. Donc les efforts se concentrent pour la plupart au pôle sud, mais il y aurait de la glace au pôle nord probablement aussi. Est-ce que c'est plus difficile que, disons, l'équateur? Oui, là, j'ai pas mis de... Je peux vous montrer une carte peut-être qui va... justement, le site web, là, si on regarde... Si on revient à notre vue du début, donc l'équateur, que ce soit la face visible ou la face cachée, donc les journées vont être, où la surface va être ensoleillée, en grosso modo 14 jours, peu importe où on se trouve, sur la face visible ou la face cachée, mais dans les régions polaires, l'éclairement est beaucoup plus difficile, plus variable. Donc là, il n'y a pas d'animation temporelle, mais dans le fond, on voit ici certains des cratères qui contiennent probablement de l'eau. C'est des cratères qui ne reçoivent jamais d'éclairement direct du soleil, c'est ça. Comme la Lune tourne sur son axe à peu près de manière perpendiculaire à l'écliptique, donc autour du soleil, les régions polaires, si on a des dépressions topographiques, le soleil ne se rend pas. Et l'alternance des jours et nuits est beaucoup plus changeant que dans les régions équatoriales. Donc, si on avait une vidéo ici de l'éclairement, là, en plus de toutes les régions sombres qui reçoivent jamais de lumière, on verrait vraiment des ombres là, énormes se projeter à l'horizon. Donc, le moindre petit relief là, va faire une onde très, très longue. Donc au niveau de la télédétection, ben, il faut imager quand le soleil éclaire. Donc, ça, c'est une mosaïque des meilleures images, dans le fond. Mais au niveau saisonnier, là, on verrait qu'il y a beaucoup plus d'ombre que ça. Fait que c'est surtout au niveau de l'éclairement, dans le fond, qui est plus difficile.
Moi, je me suis toujours demandé pourquoi la Lune nous montrait toujours la même face. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi elle ne tourne pas comme la Terre aussi vite que la Terre ou quoi, pour qu'on voit seulement la même face tout le temps?
Oui, c'est au niveau de l'évolution de l'orbite, dans le fond. Donc, la Lune tourne sur elle-même, mais elle fait exactement au même rythme qu'elle tourne autour de la Terre. Alors, on la voit chou comme ça, mais elle finit par faire le tour sur elle-même, dans le fond. Puis, au niveau de l'évolution des orbites, dans le fond, c'est la configuration en fonction de la densité qui est différente. La face visible est un peu plus dense que la face cachée. Donc, ils ont fini par s'équilibrer comme ça, near side ici. Au niveau de la face visible, là, on a la partie blanche, là, c'est des anorthosites, donc des roches qui contiennent peu de fer, qui sont moins denses. Et tout ce qui est noir ici, les mers de basalte, c'est des roches plus denses. Donc, on a une espèce d'anomalie de densité là. Et sur la face cachée, ben, on a surtout des anorthosites ici. Donc, la face est moins dense de manière générale avec quelques sources de basalte. Et ici, on le voit plus ou moins, mais on voit que c'est un petit peu plus foncé. Sur les cartes de fer, là, on voyait dans le pôle sud qu'il y a un enrichissement ici. Ça, c'est ce qu'on pense être, en fait, c'est le plus gros bassin d'impact du système solaire, entre guillemets. C'est le plus gros qu'on est capable de confirmer. Donc, on sait que tout ça ici, c'était un énorme cratère d'impact qui a été retravaillé au fil du temps. Donc, 2500 km de diamètre pour ce cratère d'impact-là, qui a été ensuite de ça rempli puis retravaillé. Mais c'est le plus gros cratère confirmé, si on veut, dans le système solaire.
Oui, madame, très intéressant. J'ai vu un reportage le jour que la chaîne avait été travaillée sur la face cachée.
Oui.
C'est ça, quoi les raisons? Est-ce qu'ils travaillent avec vous aussi?
C'est particulier, la Chine, parce qu'ils sont quand même dans le regroupement là, que je vous montrais du regroupement de coordination internationale. Donc, la Chine est au courant des efforts de tout le monde, mais a tendance à faire un programme spatial très ambitieux qui réussit très bien jusqu'à présent. Donc, ils font quand même un peu en parallèle là, de ce que les autres font. Et oui, ils ont réussi à envoyer un alunisseur relativement près du pôle sud. Je crois que c'était 45 sud, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est pas tout à fait au pôle sud, mais c'est proche. Et c'est sur la face cachée. Donc, le défi avec ça, c'est que jusqu'à présent, il n'existait pas, jusqu'à la Chine, il n'existait pas de satellite de relais pour transmettre l'information de la face cachée, ensuite de ça, pour l'envoyer jusqu'à la Terre. Donc, tout ce qui se trouve sur la face cachée doit trouver un moyen de relayer l'information. Donc, la Chine, ce qu'ils ont fait pour aller sur la face cachée, c'est qu'ils ont mis un satellite de relais. Et c'est ce que, éventuellement, les États-Unis devraient faire s'ils veulent être en mesure d'explorer la face cachée.
De sorte qu'ils disaient qu'ils étaient toujours en contact avec la Terre.
Oui, par ce satellite-là en orbite.
Exactement.
Et, fait intéressant aussi, dans le fond, les cartes des minéraux que j'ai produites ont été utilisées par le rover chinois. Donc, je les avais produites, c'est une autre version, pas les 2022, là, mais il y a une autre, d'autres données qu'on avait produites pour 45 Sud. Puis, ils ont comparé entre les cartes que j'avais produites en orbite versus ce qu'ils voyaient à la surface. Puis, c'était quand même en correspondance. Ça, c'était bien agréable de voir ça.
Est-ce que ces gens qui travaillent comme vous, là, mais en Chine, au Japon, aux États-Unis, est-ce qu'ils partagent tous à peu près les mêmes méthodologies, les mêmes cadres d'analyse? Est-ce qu'ils s'entendent théoriquement sur les mêmes approches ou au contraire, il y a des conflits d'école, il y a des paradigmes qui sont autres?
Ça serait quoi votre...
Je pose la question.
Il n'y a pas de pensée. Ouais, ben, je dirais qu'il y a des écoles de pensée quand même. Ça dépend un peu du groupe de recherche, tout, c'est ça, quelle université. Globalement, ça s'en va dans le même sens, mais il y a certaines méthodes qui sont un peu plus utilisées.
Ça converge quand même.
Oui.
Quand vous avez montré dans la carte qui sont dues à vos, oui. à vos analyses,
oui.
qui ont été intégrées dans ce module-là,
oui.
C'est reconnu. Là. Ils ne sont pas là en train de dire non, on rejette, ça vient pas de chez vous, on passe à ce côté.
Très bonne question. C'est globalement très bien accepté, mais justement, il y a un article que je révise pour vendredi qui utilise d'autres données et une autre méthode. Donc là, ils comparent leurs résultats avec ce qu'on a fait. Donc ça va être publié bientôt, mais globalement, c'est
ça. Oh, une question. S'il y a de la vie ailleurs que sur la Terre, on ne s'attend pas à trouver des éléphants ou des tomates.
Ouais.
Est-ce possible que les formes vivantes soient tellement différentes?
Les formes de vie sont tellement différentes que vous risquez de les manquer.
Oui, absolument. Surtout moi, parce que je ne suis pas astrobiologiste. C'est pour ça que dans l'équipe, on a des astrobiologistes qui viennent surtout de McGill. C'est l'université qui collabore le plus pour au niveau microbiologie, astrobiologie. Donc il y a différents moyens de tenter de détecter des traces de vie. Puis on ne s'entend pas justement sur laquelle est la meilleure parce que les formes de vie peuvent varier tellement. Mais dans les études qui ressortent, il y a souvent simplement l'imagerie qui permettrait peut-être de voir des traces que les bactéries peuvent laisser à la surface des roches. Mais des fois, il y a des processus abiotiques qui peuvent laisser la même impression. Donc, ce n'est pas hors de tout doute. Sinon, dans le cadre de nos échantillons terrains, à McGill, ils ont extrait les chaînes d'alcane, qui, semble-t-il, est un biomarqueur efficace pour tracer vraiment des formes de vie les plus primitives possibles. Et là, eux, ils voyaient des patrons au niveau du nombre de carbone présent. Certains patrons sont relatifs à des formes végétales, d'autres à des formes plus vraiment bactériennes, dans le fond. C'est le genre de patron, eux autres, chimiques qu'ils recherchent avec eux. Mais là, on est plus loin, à l'échelle plus petite que la delay détection, donc c'est les collaborateurs qui travaillent beaucoup là-dessus.
Bon, vous remercie infiniment pour cette présentation.